père.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio Sarah Cornille. Bonjour.
Bonjour.
Et Véronique Chandelier-Linares. Bonjour.
Bonjour.
Toutes deux, vous êtes ici pour nous annoncer donc cette fête de la laine qui aura lieu demain, ce vendredi 22, si je ne me trompe pas de date.
Tout à fait.
Place de la République.
Absolument.
Et ce sera l'occasion, entre 10h et 19h, de découvrir les propositions artisanales et de création autour de la laine. Et pour cela, vous allez pouvoir nous compter un peu ce qu'on pourra trouver comme production, comme style. Mais avant tout, la fête de la laine, c'est une tournée aussi sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec une trentaine de dates facilement, je dirais, à vue d'oeil, comme ça. Et là, c'est une période que vous abordez avec le Diwa et le Vercors, en quelque sorte, pour les prochaines semaines. La fête de la laine, est-ce qu'il y a toujours un engouement du public pour ce textile?
Alors oui, déjà, je voudrais faire séparer la fête de la laine et les marchés de la laine.
Ah.
Ce sont deux choses très différentes. La fête de la laine est un événement qui a lieu tous les ans, au mois de février, à Cray. C'est un événement récurrent qui est effectivement créé par la Toison d'Art. Et les marchés d'été, c'est un autre type d'événement. C'est une tournée qu'on fait. Ce sont un certain nombre de lieux qui sont choisis sur une tournée. Qui sont mis en place par des membres du CA. Et en fait, on organise ces marchés les uns derrière les autres. Donc on tourne effectivement beaucoup en Rhône-Alpes, mais on tourne aussi dans le Cantal, la Lozère. On descend jusque dans le Gard. Et là, effectivement, on a fait les deux tiers de la tournée. Et on attaque en fait la Drôme pour partie. On va commencer à ralentir un petit peu les dates. Mais demain, effectivement, on est sur 10.
Donc, à partir de 9h, sur la place de la République, quel moyen d'exposants sera en présent?
Il y a, si je ne me trompe pas, entre 18 et 20 exposants. Tout type de métier. Donc ce ne sont que des exposants qui utilisent des matières premières, tout d'abord. La laine, bien évidemment, mais il y a aussi d'autres fibres naturelles. Il peut y avoir de la soie, il peut y avoir du coton, du lin, essentiellement.
Essentiellement. Ouais. Toutes les fibres naturelles.
Voilà. Je voulais aussi donc indiquer un peu quel type d'artisan on va trouver. On trouve comme souvent donc des personnes qui travaillent le feutre, il y a des tisserandes, il y a des tricoteuses, il y a des peintres sur soie et il y a aussi souvent des teinturières. Mis au féminin parce qu'on est une équipe, mais on est une équipe essentiellement féminine.
C'est une vitrine de cette activité. Est-ce qu'elle est plus portée par les femmes que l'homme?
Je dirais que, d'une façon générale, oui, mais ça n'a pas toujours été le cas, il me semble. Et je pense que les choses peuvent tourner aussi.
Alors là, effectivement, pour reprendre les propos de Sarah, c'est vraiment très féminin, à n'en pas douter. Les hommes sont peu, et quand ils sont là, c'est plutôt pour accompagner leur compagne. C'est ce que Gilles, qui est le compagnon de Stéphanie, qui est éleveuse de lapins angora, a appelé les valeurs ajoutées. Voilà, ils sont les valeurs ajoutées. Mais en tout cas, ce n'est pas eux qui sont à l'atelier. Dans les années 80, c'était différent. C'était beaucoup de couples où là, l'un et l'autre travaillaient. Chez les tisserands, par exemple, c'était assez souvent les deux en tissage et elle un peu plus sur la couture. Mais de nos jours, c'est vraiment, vraiment très, très féminin. Il y a 2 ans, j'étais les premières rencontres des tisserands de France. Et on a fait le constat qu'on était 95% de femmes. Voilà. Et les hommes étaient dans une classe d'âge de retraités. Donc pour l'instant, c'est féminin, mais on ne désespère pas. On aimerait qu'il y ait un peu plus d'hommes, ce serait pas mal aussi.
Comment expliquez-vous justement cet abandon, entre guillemets, des hommes par rapport au tricot ou au traitement des textiles?
Il y en a des hommes, en fait.
Ouais.
Pour revenir, il y en a, mais surtout dans les élevages. Dans les élevages, effectivement, on va trouver des éleveurs, des hommes. On en a vu encore un éleveur de tonne et marteau quand on était dans le 05. Donc là, oui, dans les élevages, il y a des couples, beaucoup. Mais encore une fois, dans le travail d'atelier, moi, je ne saurais pas l'expliquer, pour être honnête. Je ne suis pas sociologue.
Moi, je dirais que, de façon un peu culturelle et traditionnelle, la fibre, c'était plutôt quelque chose qui était dédié aux femmes. Alors, le tissage, il faut quand même un peu de force, souvent, parce que c'était des métiers à bras, très souvent. Donc il faut,
ce sont toujours des métiers à bras.
Ouais. Ouais. Donc là, effectivement, on trouve peut-être plus d'hommes. Et malheureusement, la maille, donc ce qu'on appelle le tricot, véhicule un peu une image de coin du feu, quoi, de la femme qui tricote sur son canapé au coin du feu. Mais je dirais que depuis le Covid, j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à cette technique, sans plus se cacher, parce qu'il y avait déjà des hommes avant, mais qui se cachaient un peu.
Et puis après, c'est aussi très culturel.
Ouais.
J'ai regardé l'autre fois un documentaire en Islande, où là, pour le coup, des tricoteurs, il y en a pas mal. Ouais. Donc en France, c'est comme ça.
Ouais.
Voilà, mais on espère que ça va changer.
Vous-même, qui exposerez l'une pour tissage et tricot, et vous, maille, pour vous, Sarah. Donc, qu'est-ce qui vous a initié? Vous parliez de transmission, peut-être familiale, de cette technique, ou alors vous avez appris vous-même?
Alors, en ce qui me concerne, j'avais effectivement une grand-mère tricoteuse, machine, parce que je tricote sur des machines à tricoter familiales, donc ce n'est vraiment pas de l'industrie, et je tiens à le préciser. Bon, je n'avais pas le droit de toucher à sa machine, donc je n'ai fait que regarder. Donc je me suis formée toute seule, avec peut-être des facilités liées à ce que j'avais vu plus jeune. Mais voilà, il n'existait pas à l'époque, en tout cas, ça fait 20 ans que je tricote, et à l'époque, il n'y avait pas du tout de formation sur les machines à tricoter, en tout cas.
Ces machines, elles sont susceptibles d'être très paramétrées
Alors oui, on peut comme avec, en choisissant des aiguilles au tricot main, choisir une petite ou une grosse aiguille. Là, on peut choisir effectivement une maille plus petite ou plus grosse.
Une densité,
voilà, ce qu'on appelle comme ça en tricot machine. Par contre, alors les motifs, on peut effectivement rentrer des motifs. On est plusieurs tricoteurs machines sur la toison. On a tous une façon différente d'approcher et d'utiliser les machines. Moi, j'utilise énormément le motif parce que j'étais infographiste avant et que le motif et la couleur sont vraiment mon plaisir. Donc moi, je joue beaucoup là-dessus, effectivement, mais je crée des motifs en amont.
Il y a quand même quelque chose que tu ne dis pas, c'est que tu as des machines qui sont récentes et qui sont reliées sur un ordinateur.
Oui,
donc
voilà,
tu as tout un travail qu'on ne trouve pas forcément. Par exemple, moi, je suis nulle avec mon ordinateur, donc je me cantonne à ma machine à tricoter. Sarah, elle est sur un autre versant.
J'utilise des logiciels d'infographie et ensuite j'ai un petit peu trafiqué ma machine pour pouvoir envoyer les motifs dessus. Parce que j'ai aussi été, fut un temps, réparatrice informatique et donc je maîtrise pas trop mal ce genre de choses.
Ça, c'est un savoir-faire que vous partagez pour d'autres?
Pas pour l'instant. Pour l'instant, je suis encore en train d'essayer d'aller plus loin dans mes propres techniques. Et peut-être qu'à un moment donné, d'ici un an, deux ans, trois ans ou plus, je partagerai, oui.
Véronique, je vous poserai la même question.
Alors moi, je suis arrivée dans le monde du tricot un peu tard. Et contrairement à Sarah, je ne viens pas du tout d'une famille où j'ai vu spécialement ma grand-mère tricoter. J'ai vu ma maman faire quelques pulls. J'ai commencé à tricoter très tard. Moi, c'était plutôt les étoffes, le tissu. J'avais fait une formation de costumière. Donc j'ai toujours aimé les textures, les formes. Voilà, donc j'y suis venue assez tard et puis c'était aussi une façon d'être indépendante, d'avoir un boulot où j'étais indépendante. C'est pour ça que j'ai choisi de faire du tricot et du tissage. Du coup, c'est par là que je suis arrivée à l'artisanat. Et après pas mal d'années, parce que j'ai fait pas mal de boulot, donc c'était un choix assez tardif et je me suis formée. Sur le coup, je ne me suis pas vraiment formée, c'est depuis peu. Je suis installée depuis 2017 et j'ai dû suivre ma première formation en 2021. Donc j'ai vraiment commencé en tâtonnant et en passant des heures à l'atelier.
Le tricot, est-ce qu'il existe des classiques dans le vêtement?
Oui, il y a aussi du classique. Il y a en fait tout l'intérêt de l'association La Toison d'Art, c'est aussi de regrouper justement un certain nombre de personnes qui ont une créativité différente, des envies différentes, qui travaillent des matières différentes, avec différents types de techniques. Et donc, tout est possible. Donc ça va du tricot le plus classique, par exemple le pull classique, aux choses les plus... Alors peut-être pas les plus extravagantes, parce qu'on reste quand même dans l'ordre du raisonnable, mais avec des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ça, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est propre à chaque artisan. Chaque artisan arrive avec sa façon de voir les choses, avec sa propre technique, avec la façon d'appréhender son outil de travail. C'est toute la richesse de la toison d'art et des marchés, notamment. Et de la fête de la laine, bien évidemment.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, Sarah, toi et moi, nous travaillons toutes les deux sur des machines à tricoter très similaires, qui ne sont pas de la même marque, mais similaires. Ouais. Et pourtant, vous regardez ce qu'elle fait et ce que je fais, ça n'a rien à voir, ce sont deux univers différents. Et comme je suis aussi tisserande, avec d'autres tisserandes, avec Héloïse, avec Florence, on va travailler les mêmes fils de chaîne exactement. Et pour autant, vous vous mettez devant nos trois stands et vous verrez des choses très différentes. Donc intervient vraiment la sensibilité, la réceptivité et la créativité de chaque artisan-artisane.
Quel gain apporte l'utilisation des machines à tricoter?
Alors, indéniablement, un gain de temps, évidemment. Oui. Mais là où il ne faut pas, aller trop vite, c'est qu'en fait, le tricot main et le tricot machine sont deux techniques très différentes. Il y a des choses qu'on peut faire au tricot main qu'on n'arrivera pas forcément à faire en tricot machine, ou alors avec un certain nombre de difficultés, et inversement. Et je crois qu'il faut vraiment... Alors, j'allais pas dire séparer les deux, mais il faut pas confondre les deux. Donc, même s'il y a un gain de temps, pour certaines choses, ça peut être bien plus long.
Et il faut pas les opposer. Comme tu dis, c'est vraiment deux techniques qui sont complémentaires. Mm. Pour ma part, je travaille le lin, des fils de lin assez fins. Sarah travaille aussi des fils très, très fins. Moi, je fais des t-shirts et des débardeurs. Si je devais les faire aux aiguilles, j'aurais deux modèles, quoi. Ce serait juste infaisable.
Oui. Voilà. Ou alors, c'est pour du luxe.
C'est pour du luxe ou alors pour du loisir. Ça reste du loisir.
C'est une activité qui permet d'en vivre.
Ah, t'es d'accord avec moi, ce sont toutes les deux, pour nous deux, nos activités principales. C'est une question qui est toujours un peu... on ne sait jamais comment répondre parce que c'est toujours un peu délicat. Puisque quand on a un médecin ou un banquier, on va pas lui demander s'il vit de cette activité. Nous, on en vit et... Non seulement on en vit, mais on est aussi dans une activité et dans un collectif, à savoir les lainiers, le milieu de la laine, qui nous porte, dans le sens où on est très collectif. La toison d'art, on est un bon exemple, dans le sens où les marchés d'été, c'est des artisans qui se regroupent pour créer des marchés, certains qui organisent, d'autres qui viennent que participer, et après ça s'inverse selon les départements. Mais même si on vient vendre sa créativité, on vient aussi partager une expérience collective. On le fait ensemble. Quand il y a du vent, qu'il y a des stands qui tombent, c'est ensemble qu'on va les relever. S'il y a des petits accidents d'ordre automobile, c'est ensemble qu'on va essayer de régler tout ça. Donc on est vraiment dans un milieu qui est collectif et ça aussi, ça nourrit en fait. Il n'y a pas que le fait de vendre.
La toison d'art réunit environ combien d'artisans créateurs ?
Une soixantaine d'artisans créateurs. Ouais. Tout le monde, alors on est quelques-uns. Alors les anciens, on va partir du départ. Les anciens faisaient des tournées entières. Les choses ont un peu évolué depuis. On est très peu. On doit être. Donc il y a Véronique, il y a Florence.
Joséphine,
Philippe et Pascal quand même pour partie.
On est Héloïse
et moi, on fait une grosse partie de la tournée, voire toute la tournée en ce qui me concerne. Je dois être d'ailleurs celle qui en fait le plus, je ne suis pas sûre. Mais nous, on vit de notre activité, on ne vit pas super bien, mais on vit comme on le souhaite, en tout cas pour le moment. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de mal à en vivre. Donc, se déplacer, faire toute une tournée, ça représente quand même un certain coût. Donc, on a certains marchés, toujours, où il y a un réseau local, ou à peu près local, qui vient. Donc, ça va être, par exemple, des éveurs du coin. Ceux qui étaient en Lozère ne seront pas forcément ceux qui seront ici, là, dans la Drôme, et inversement. Il y a c'est fédérateur aussi.
Sur l'ensemble de la tournée qui passe de département en département, on commence dans le Cantal et dans la Lozère, on va ensuite dans le Vercors, on va ensuite dans le 05 et 74. Il y a un petit groupe qui fait toutes ces dates-là. Et puis, sur chaque département, sur chaque tournée, il y a des gens qui viennent tourner juste sur ces dates-là. Et du coup, ça, c'est intéressant aussi pour nous, parce que ça amène des énergies différentes, des savoir-faire différents, et ça, c'est enrichissant. Ça fait qu'on a une tournée qui est relativement riche et qui, comme a dit Sarah tout à l'heure, au départ, les gens qui ont créé la Toison d'Art faisaient quasiment tout. Et là, on s'est rendu compte que ça changeait. La petite sociologie de l'exposant est en train de changer. On est plutôt sur des gens qui viennent 3-4 dates par-ci, 3-4 dates par-là. Et du coup, ça fait des énergies nouvelles. C'est intéressant aussi. Et chaque tournée est assurée de voir des nouvelles têtes et assez d'exposants pour que ça fasse un marché bien cohérent.
Les éleveurs, les fournisseurs de laine, en existent-ils avec lesquels vous travaillez également? Est-ce qu'il y a une évolution aussi dans cet aspect-là? Et puis, est-ce que la laine a une cote plutôt fluctuante dans sa valeur ou alors il y a une certaine stabilité?
Véronique, tu es plus à même de parler de ça.
Vous posez pas mal de questions. Pour répondre à la première, au niveau local, très local, chez moi en Lozère, il n'y a pas vraiment. En revanche, juste au-dessus, dans la Creuse, il y a deux filatures avec lesquelles je travaille, Fonty et Terrade. Et il y a quand même quelques filatures en France. La filature de Niau qui est en Ariège, la filature du Val-Gaudemar qui est dans le 05 et qui a été rachetée il n'y a pas très longtemps par Marie-Laure. Et toutes ces filatures proposent des fils vraiment de qualité. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que ni Sarah ni moi ne sommes éleveuses. Donc nous, on travaille avec des fils qu'on achète. Il y a évidemment l'Italie qui est assez incontournable. Parce que si nous, on a encore quelques filatures, on en a beaucoup moins qu'il y a 50-60 ans. En Italie, par contre, ouais, il y a pas mal de monde. Et puis après, on a aussi la possibilité de travailler avec des fils qu'on achète directement chez les éleveurs, qui sont à un coût évidemment bien plus important pour nous, bien plus élevé qu'en filature. Mais sur certaines créations, sur certains motifs que je veux avoir, pour moi, c'est intéressant d'aller chez les éleveurs aussi. Et après, pour répondre à votre question sur le cours de la laine, alors le cours monétaire, je ne saurais pas répondre. En revanche, je pourrais répondre sur le cours, comment dire, affectif, ou plutôt sur la réceptivité que les gens ont de la laine. Depuis quelques années, il me semble que la laine regagne un petit peu ses lettres de noblesse, dans le sens où on voit des éleveurs qui, au départ, étaient un élevage viande avec une production de laine qui n'était pas valorisée et que, petit à petit, les éleveurs commencent à avoir envie de valoriser la laine plutôt que de la jeter sur le fumier, comme c'est souvent fait. Donc, la cote affective de la laine, si je peux l'appeler comme ça, il me semble qu'elle est un peu en train de monter et que les gens sont vraiment...
Plus réceptifs.
Ouais, plus réceptifs, il me semble.
Vous avez cette capacité d'opérer au sur-mesure ou aux commandes?
Alors, les commandes, oui, pour beaucoup d'entre nous.
Ouais.
Sur mesure, ça dépend vraiment de chaque artisan et de la spécificité de son produit.
Alors, je dis pas sur mesure, parce que pour moi, dans ma tête, vraiment, le sur mesure, c'était à l'époque, on prenait les mesures de la personne et on adaptait. Moi, je fais de l'adapter. C'est-à-dire que sur les modèles que j'ai déjà existants, je peux rajouter 3 cm de manche, les enlever, ou un peu de largeur, un peu de longueur. Voilà, j'adapte. Mais ce n'est pas vraiment du sur-mesure, parce que très clairement, on n'a pas le temps et ce serait moyennement rentable quand même. Voilà.
Je voudrais rebondir là-dessus, en fait, sur la question du temps. Très souvent, on entend lors des marchés des gens qui nous disent « Ah, c'est chouette, vous avez tout le temps pour vous, vous avez le temps que vous voulez, etc. » moi, j'aurais quand même précisé qu'en tant qu'artisan, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. De un, on travaille à la maison, donc ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'horaire. Les jours de la semaine, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Que oui, éventuellement, des fois, on peut se libérer une après-midi, une journée pour faire autre chose, mais que du coup, ça veut dire qu'on va passer notre dimanche, peut-être, notre samedi, notre soirée, voire une partie de la nuit, si l'atelier n'est pas trop proche des chambres. Donc, ce temps est quelque chose de très théorique pour nous. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est sûr. On est tout le temps en train de travailler. Et par exemple, quand on fait des marchés, quand on va d'un lieu à un autre, on est aussi sur du temps de travail. Donc on passe notre temps à créer nos produits, éventuellement créer nos modèles, créer nos produits, les tester les prototypes, voir si ça fonctionne, essayer de trouver d'autres personnes qui ont d'autres types, par exemple de corps, s'il s'agit d'un vêtement, pour vérifier si tout va bien. Ensuite, à fabriquer, il faut qu'on en ait suffisamment pour pouvoir en vendre et en proposer. Ensuite, quand on va attaquer les marchés, eh ben, il faut qu'on charge nos véhicules, il faut qu'on prévoie tout, il faut qu'on prenne la route, il faut qu'on monte le stand le matin, qu'on vende dans la journée. Donc, c'est à peu près déjà 12 heures presque de la journée, entre 10 à 12 heures suivant les lieux. Qu'on redémonte le stand le soir, qu'on reprenne notre véhicule, qu'on aille au point B et qu'on recommence. Et arrivé vers la fin de la saison d'été, eh ben, il faut reproduire parce qu'il y a la saison d'hiver qui arrive. Et ça, je tenais à en parler parce que souvent, il y a une méconnaissance de ce temps de l'artisan qui n'est pas le même que le temps d'autres personnes.
Et on est vraiment sur des activités, effectivement, qui sont chronophages.
Il y a heureusement cette passion qui vous anime.
Heureusement.
Toujours. Oui. Qui nous fatigue aussi. Oui. Elle ne fait pas que nous animer.
Vous aurez l'occasion d'avoir le temps de parler aussi aux visiteurs demain.
Toujours, hein. Toujours. Et on adore ça.
D'accord. Oui. Et il y a un site internet pour connaître les prochaines dates aussi de ce marché de la laine. C'est latoisondart.weebly.com. Je mettrai le lien sur la page de l'émission. Et je vous remercie, Sarah Cornille et Véronique Chandler-Linares, d'être venues pour nous parler de ce rendez-vous 22 août à 10.
Merci.
Merci à vous.
Au revoir.